Voilà, nous continuons notre série sur le paysage chrétien, l'environnement chrétien. Le but de cette série, c'est de montrer tout le contenu de l'environnement chrétien afin que nous puissions pas être surpris de voir certaines choses et parfois faire marche arrière à cause de cette surprise-là. Et que nous puissions pas nous habituer à accepter l'erreur, mais que nous puissions réaliser que voir l'erreur autour de nous, c'est une réalité dont la Bible parle. C'est important de comprendre dans quoi nous sommes pour très bien évoluer. Donc les avions ont été construits en fonction de l'atmosphère terrestre, ils n'ont pas été construits en fonction de l'atmosphère de la Lune. Donc, pour construire un avion, les gens avaient bien conscience qu'un avion va voler dans l'atmosphère terrestre. Donc, c'est pourquoi on lui a mis des ailes en fonction de la résistance de l'air. Mais pour aller, par exemple, dans la Lune, il faut ce qu'on appelle une fusée qui n'a pas besoin des ailes. Parce que pour aller dans la Lune, il n'y a pas la résistance de l'atmosphère de l'espace pour nous maintenir. Donc la Lune, ce n'est pas la Terre, l'espace, ce n'est pas la Terre. Donc tout, c'est important de comprendre l'environnement dans lequel nous sommes pour pouvoir très bien évoluer. Donc nous avons commencé par les choses les plus négatives. On s'est dit qu'on allait commencer par ce qui était négatif pour arriver à ce qui était positif. Et donc, dans les choses négatives, donc on a commencé par les plus élevées. On a commencé par parler des faux serviteurs. Et dans les faux serviteurs, on avait deux catégories. La première catégorie, c'est les infiltrés. Donc, ce que nous pouvons considérer comme étant des livrés, c'est-à-dire des instruments du diable. Soit qu'ils ont signé un contrat avec le diable, il y en a qui ont signé un contrat avec le diable, mais qui sont au milieu des enfants de Dieu. Et quand on dit au milieu des enfants de Dieu, et c'est dans les églises, et c'est dans le paysage, donc ça peut être des évangélistes itinérants, ça peut être des gens qui ont des sites internet, ça peut être des gens qui publient des livres, mais c'est des infiltrés, c'est des serviteurs du diable, mais qui sont au milieu des enfants de Dieu. Ça a été donc le sujet du mardi précédent. Et nous avons pris pour exemple Judas. Donc le Seigneur lui-même parle en disant que c'est moi qui vous ai choisi, mais au milieu de vous, il y a un démon. Donc le Seigneur savait déjà qui était Judas. Et c'est là que nous avons pris aussi d'autres passages, hein, donc dans 2 Corinthiens 11 à 14, qui nous montrent que les ouvriers de Satan peuvent se déguiser en anges de lumière. Donc c'était pour expliquer que nous ne devons pas être surpris de constater qu'il y ait des faux serviteurs de Dieu qui soient vraiment directement impliqués dans l'action du diable. Donc c'est une réalité. Et d'ailleurs, dans Actes des Apôtres au chapitre 20, Paul dit, moi je m'en vais, mais après moi, je sais qu'il y aura des loups qui vont venir, qui seront suscités du milieu de vous. Donc il y aura des loups, des gens qui n'épargneront pas le troupeau. Ça, c'est encore plus choquant qu'à l'avance, Dieu sait que le troupeau ne sera pas épargné. On a envie de dire, mais pourquoi Dieu n'arrête pas ça? Voilà, donc ça a été le sujet du mardi précédent, mais on a expliqué que le Seigneur permettait toutes choses pour notre croissance spirituelle et aussi pour montrer qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs, parce que celui qui est vraiment attaché à la parole, attaché à la vérité, attaché à Dieu, finira par voir que, par faire la différence entre les vrais et les faux. Mais ceux qui, d'une manière obstinée, suivent les faux, sont en quelque sorte eux-mêmes faux aussi. C'est pourquoi ils suivent les faux. Donc il y a plein de raisons qu'on peut donner. Mais ce que sur lequel nous voulons appuyer, c'est sur le fait que nous devons savoir qu'au milieu de nous, il peut y avoir de tels individus, des gens qui servent le diable, soit par contrat direct, soit par contrat indirect. Oui.
Oui, pasteur, mardi passé,
Oui, ça marche.
Le mardi passé, vous nous avez dit que le Seigneur nous aime, il ne peut pas lâcher quelqu'un qu'il a aimé avant. Mais parfois, il nous permet que des fois, les chrétiens tombent encore dans le péché, pourtant qu'il sait que ça peut nous faire mal. Je voulais vous demander, c'était pourquoi au fait?
Ah, Dieu ne peut pas nous obliger à ne pas pécher. Il nous propose, il nous donne la force pour ne pas pécher, mais il ne nous retient pas avec des chaînes. Donc nous gardons la liberté. C'est notre liberté qui fait que nous, avec l'orgueil, dès que l'orgueil monte, on s'affaiblit et on tombe dans le péché. Mais il ne peut pas nous imposer. Il nous a créés libres. C'est cette liberté-là qui fait qu'avec l'orgueil, l'homme tombe. Mais normalement, on doit utiliser cette liberté pour dire à Dieu, prends ma vie, contrôle tout. C'est ça, afin que notre relation avec lui soit une belle relation, il faut que ça soit libre. Mais souvent, nous utilisons cette liberté-là à cause de l'orgueil pour vouloir nous débrouiller tout seul. Et c'est là que ça finit mal. On tombe souvent à cause de cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une autre catégorie de faux serviteurs de Dieu, celle composée des gens charnels, au fait. Donc on ne parle pas de frères et sœurs tout court, mais on veut parler vraiment des gens qui ont des positions d'autorité, des positions de responsabilité, mais qui en réalité sont charnels. Mais on ne peut pas dire avec assurance qu'ils aient un contrat avec le diable ou qu'ils soient des infiltrés du diable. Mais ils ont une attitude charnelle. Nous avons un exemple tout simple dans l'Ancien Testament, le roi Saül. Le roi Saül a été choisi par Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi clairement par Samuel. Donc on ne peut pas dire que c'est un infiltré du diable. C'est le choix de Dieu pour être le roi de son peuple. Mais Saül a eu un comportement charnel. Il était de grande taille et il était un guerrier bien avisé et il remportait des victoires. Et il a fini par croire que sa stratégie militaire était plus importante que Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu l'a humilié par Goliath. Donc, Dieu a montré à Saül que sa taille et sa stratégie militaire n'étaient en réalité que zéro. Parce que quand il y a eu l'histoire de Goliath, Saül s'est dérobé. Donc, il a fallu le vrai serviteur de Dieu, David, pour affronter dans ce problème-là. Donc, on ne peut pas dire que Saül soit un infiltré du diable. Non, c'est vraiment le choix de Dieu. C'était vraiment un homme de Dieu, mais un homme charnel. Donc il était charnel et ça peut exister. Nous avons le cas d'Élie, Élie le sacrificateur, pas Élie le prophète, Élie le sacrificateur. C'était le souverain sacrificateur. Nulle part on dit qu'Élie était un infiltré du diable. Il était un serviteur du diable. Nulle part. Mais on nous montre qu'il était un homme charnel parce qu'il ne réprimandait pas ses enfants qui se comportaient mal. Voilà, je laisse la prochaine question.
Je voulais savoir, Saül était déjà charnel avant qu'il soit oint, ou il est devenu charnel?
Non, il est devenu charnel. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est manifesté comme charnel.
Donc c'est voilà. Qu'il avait déjà en lui cette nature-là?
Mais non, tout le monde est à la nature de péché. Ça, c'est tous oui, les humains.
Mais là, on voit quand même qu'il s'est quand même détourné complètement de la face.
Ah, justement, donc c'est arrivé après. Quand il a été choisi, il était correct. D'accord. C'est après qu'il s'est détourné. Donc, c'est comprendre cela. Maintenant, quelles sont les causes? Est-ce que la personne n'était pas suffisamment formée? Est-ce que... Voilà, il y a plusieurs raisons, mais il y a plusieurs raisons. C'est pourquoi, pour nous aider un peu, nous divisons encore cette catégorie en parties. Il y a des serviteurs qui sont charnels par manque de maturité. C'est possible. Il y en a qui sont charnels parce qu'ils ont perdu la vision de Dieu. Et il y en a qui sont charnels par intérêt personnel, c'est-à-dire qu'il commence à construire son royaume. Donc là, c'est le cas le plus grave. Mais ce n'est pas... Tous les cas ne se ressemblent pas. Donc il y a des gens qui sont charnels parce qu'ils commencent à aimer les choses du monde, Donc, et cet amour pour les choses du monde les amène à tomber et à devenir un serviteur charnel. Il y a des gens qui sont charnels par manque de maturité. Ils ne veulent pas grandir avec Dieu, aller plus loin avec Dieu. Et il y a des serviteurs de Dieu qui sont charnels parce que le cas de... Donc, on a cité le manque de maturité. On a cité le fait de vouloir... on a perdu la vision de Dieu. Mais il y en a aussi qui sont charnels parce qu'ils construisent leur royaume. Voilà. Donc, on va lire dans Philippiens 2. Philippiens 1 plutôt. Philippiens 1. Le cas qui est le plus grave. Philippiens 1. Philippiens 1. Nous lisons ceci. Verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Donc il y a des gens qui ont vraiment... Ce n'est pas qu'ils prêchent vraiment par appel de Dieu, par souci de l'œuvre de Dieu, mais ils commencent vraiment à prêcher pour des raisons personnelles. Ils travaillent pour Dieu pour des raisons personnelles. Alors qu'il y en a qui peuvent vraiment continuer à travailler pour Dieu parce qu'ils considèrent que Dieu a voulu qu'ils fassent ainsi, mais tout en ayant des problèmes de l'amour pour les choses du monde. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que celui maintenant qui commence à prêcher par envie, pour des raisons personnelles, celui-là en quelque sorte construit son œuvre à lui, puisqu'il a des raisons personnelles, il a des envies personnelles. Dans son fonctionnement même, il est en train de construire son œuvre, même s'il cite le nom de Dieu. Mais il y en a, comme Élie, nulle part on dit qu'Élie faisait son œuvre, le sacrificateur. Nulle part on dit que Salomon servait Dieu pour son intérêt. Il était roi parce que Dieu l'a voulu, mais il avait un problème, il aimait beaucoup les femmes et les richesses. Donc ça, ce n'est pas la même chose avec ce qui est cité dans Philippiens, où il y a des gens qui, directement en servant Dieu, c'est vraiment directement pour eux, quoi. Là, c'est un autre niveau encore. Oui.
Est-ce que justement les personnes qui servent, les serviteurs qui servent Dieu dans leur intérêt à eux, peuvent au final se retrouver entre guillemets confondus et... En pensant faire les choses pour eux, finalement, ça se retrouve quand même être pour Dieu.
Ah non ! Ils font pour eux, mais Dieu peut se servir de tout le monde. Mais pour ça, on peut dire cette vérité pour tout le monde, même pour Satan. Dieu peut se servir de Satan pour ses objectifs à lui. Donc, mais les intentions de la personne ne sont pas bonnes. Donc ça, tout le monde peut être utilisé par Dieu. Il y a une sœur qui m'a raconté que la personne qui l'a aidé à venir à la conversion, aujourd'hui est encore païenne. Mais Dieu l'a utilisé à un moment donné comme ça. Voilà, ça on peut le dire pour tout le monde.
Non mais comme tu dis là, mais qu'en plus, c'est-à-dire que ses intentions pour ses intentions à lui, ça ne marche pas quoi. Qu'au final, il n'a rien.
Ah mais ça c'est, comment dire, ça c'est pour tout le monde aussi encore. Donc tout ce que l'homme sème sans Dieu, tous ceux qui bâtissent sans Dieu bâtissent en vain. Un jour, ils finiront par ne rien avoir. Peut-être ça peut prendre du temps, plus ou moins pour certains, mais un jour, Dieu montrera vraiment qu'ils n'ont rien du tout.
Parce qu'en fait, moi, je me disais qu'un serviteur, je me dis, il y a un moment ou un autre, s'il a bien commencé, qu'à un moment, il se détourne parce qu'il veut faire les choses pour lui-même, et que finalement, qu'il voit que ça ne marche pas, qu'il n'y a rien, peut-être il peut aussi revenir, et puis on n'aura même pas su. En vérité, entre deux, tu vois ce que je veux dire?
Là, nous ne sommes pas en train de discuter sur le retour pour le moment. Ah, là, c'est une autre question que tu poses. Ça veut dire, est-ce qu'un serviteur charnel peut-il se repentir à nouveau? Là, c'est encore une autre question. Et nous allons donner Hébreux 6 et Hébreux 10. Il y a des cas. Maintenant, il ne faut pas qu'on confonde la chute d'un serviteur et le fait qu'il s'est écarté de Dieu. à jamais. Donc, tout le monde peut chuter. Mais nous sommes en train de parler des gens qui ont un comportement dans la longueur, charnel. Voilà, donc c'est des gens qui mettent, qui ont un fonctionnement qui est de la chair. Donc on est en train de parler de ce genre de personnes. L'apôtre Paul, dans Timothée, il dit, il parle de je ne sais pas si c'est 2 Timothée 4 ou 1 Timothée 4, il parle de Démas qu'il a abandonné. Voilà, 2 Timothée 4 et 10. Et on commence au verset 9. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens s'est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. » Donc Démas, quand nous lisons les autres lettres, il faisait partie de l'équipe de travail de Paul. Donc il avait un rôle de responsable dans le corps du Christ. Mais là, quand on lit à la fin de la vie de Paul, Paul dit clairement, Démas m'a abandonné pour l'amour des choses de ce siècle. Donc on voit bien que des gens peuvent servir Dieu et dans la chair, à un moment donné, c'est une réalité, nous ne devons pas considérer que puisque quelqu'un parle au nom de Dieu, forcément c'est un loin de Dieu ou c'est un infiltré. Il y a aussi le milieu. Il y a le milieu, il y a des gens qui ne sont pas des infiltrés, mais par l'amour, à cause de l'amour des biens de ce monde, à cause des faiblesses de la chair, peuvent devenir des serviteurs charnels et sortir de la volonté de Dieu, comme Démas qui a abandonné Paul à cause des faiblesses de la chair, à cause de l'amour des choses de la terre. Donc il y a cette catégorie-là, il y a la catégorie la plus dangereuse qu'on a citée, celle des gens qui travaillent maintenant pour eux-mêmes. Donc, ils citent le nom de Dieu juste pour travailler pour eux. Ce n'est pas comme certains qui citent vraiment quand ils te parlent de Dieu, ils parlent dans le sérieux, mais lui-même en tant que personne a des faiblesses par rapport à l'argent, par rapport au film, par rapport à ceci, par rapport à cela. Ce n'est pas ça. Là, on parle des gens, voilà, la catégorie la plus dangereuse, c'est des gens qui bossent maintenant pour eux. Ça, c'est le plus grave. Oui.
Il y avait une femme là que, je ne sais pas comment elle s'appelle, que tu citais parfois. En fait, son mari était serviteur et puis elle était toujours avec lui. Et quand son mari est mort, elle a arrêté de servir Dieu.
Voilà.
Cette femme-là, elle est dans quelle catégorie ?
Charnelle. Hein. Donc, elle servait Dieu charnellement. Au fait, elle
servait... Mais toute sa vie, elle a donné quand même.
Pardon?
Quasiment toute sa vie, puisque, comme je ne sais pas, par rapport au témoignage que tu disais de...
Oui, mais en réalité, elle servait son mari, c'est parce que son mari était pasteur, donc elle accompagnait son mari. C'est juste qu'elle accompagnait son mari, puisque quand son mari est mort, donc on a su qui était son vrai Dieu. Donc c'était son mari et non le véritable Dieu, puisqu'elle a arrêté de servir Dieu quand son mari est mort. Donc elle accompagnait juste son mari dans le train. Maintenant, nous ne disons pas, c'est pourquoi il ne faut pas que ce soit noir ou blanc. Nous ne disons pas que cette femme n'avait aucun amour pour Dieu. Non. Moi, ce genre d'amour, j'appelle ça de la sympathie. Elle devait avoir aussi de la sympathie, certainement pour Dieu. On ne dit pas qu'elle était anti-Dieu. Elle devait avoir de la sympathie pour Dieu. Mais nous nous souvenons du commandement de notre Seigneur. Quiconque veut me suivre et qu'il aime sa femme, qu'il aime sa famille, qu'il aime ceci, cela plus que moi, n'est pas digne de me suivre. Donc cette femme n'avait pas cet amour-là que Jésus attend pour le suivre. Voilà. On ne dit pas non plus qu'elle était anti-Dieu. Non, c'est juste que nous sommes en train de parler de charnel. Charnel, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui n'a aucun sentiment pour Dieu. Pas du tout. Charnel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour Dieu, mais qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne fonctionne pas comme un vrai serviteur spirituel. C'est ce que nous voulons dire. C'est une réalité qu'on va retrouver au milieu des enfants de Dieu. Il ne faut pas que ça nous déstabilise et ça nous étonne. C'est des choses qui sont écrites dans la parole.
J'essaie de comprendre. Quand tu dis un serviteur qui sert... Qui fait semblant, qui
entre guillemets, sert Dieu, mais pour lui-même. En fait, il y a un objectif, en fait. Il y a, quand il sert, c'est, il y a quelque chose, quoi. Donc, comme l'exemple que tu as donné de la femme, c'est parce qu'il y avait le mari. Donc,
Non, moi, je ne pense pas que c'est son cas. Moi, je pense qu'elle, quand elle servait, elle voulait servir Dieu, mais au fond d'elle, en réalité, c'était son mari qu'elle servait. Maintenant, quand il meurt, c'est le moment du choix. Je crois que c'était le jour de sa conversion, le jour de la mort de son mari. Donc, elle a choisi. Ce n'est pas comme si, quand elle servait Dieu, elle voulait servir directement son mari consciemment. Je crois qu'elle faisait les choses pour plaire à son mari, mais pas d'une manière à 100%. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des milieux, il y a des gens qui ont une sympathie pour Dieu, mais l'amour pour son mari est supérieur à l'amour pour Dieu. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre par rapport à cette femme-là.
En fait, il y a toujours un objectif, je ne sais pas si c'est un objectif ou un truc à atteindre, dans le sens où un serviteur qui sert, entre guillemets, Dieu pour lui-même, ça peut être peut-être, il parle de Dieu peut-être pour avoir des offrandes, il parle de Dieu peut-être pour avoir...
Voilà, du succès, comme l'apôtre a dit, par envie, il fait ça pour montrer qu'il sait aussi parler, qui peut faire, donc il y a son objectif derrière ça. Voilà. Pour avoir une situation, il y a des gens qui ont, pendant que les autres étudiaient, eux, ils étaient en train de regarder la télé, ah, ils se réveillent à 35 ans, il n'y a rien. Ah, bah, moi, j'ai des diplômes, j'ai été beaucoup à l'église, j'ai fait les études bibliques. Voilà. Donc, donc il veut avoir une situation. Voilà. Il y a des gens qui veulent avoir une situation.
Dans ce cas-là, il y a quelque chose qui va déclencher, comme tu as dit, devant quelque chose pour faire le choix, un jour pour... voilà, il y a toujours un jour...
Dieu est bon, il va toujours vouloir sauver. Voilà. Mais ça, c'est une catégorie. Hein. Mais il y a une autre catégorie. Non, cette catégorie-là, son niveau supérieur, c'est le niveau des gens qui, finalement, ils commencent à œuvrer pour eux-mêmes. Ils ont décidé d'œuvrer pour eux-mêmes. Et ils continuent. Voilà. C'est une réalité qu'on retrouvera dans l'œuvre de Dieu. Donc, nous avons cité l'exemple de Saül. Nous avons cité aussi l'exemple de Élie. Nous pouvons citer aussi l'exemple de Salomon. Salomon a été choisi par Dieu. Donc, il y a peu de gens qui ont été choisis comme Salomon. Nous connaissons les débuts de Salomon. Comment il a, au lieu de demander l'argent, il a demandé la force. Il a demandé la sagesse. Donc, on ne peut pas dire que Salomon était un faux, mais il est devenu un faux serviteur parce qu'il a mis l'amour des biens de la terre devant Dieu. Et ça l'a conduit à devenir un faux serviteur. Bon, on pense qu'il s'est repenti à la fin. C'est pourquoi, quand on se pose la question, est-ce que la repentance est possible? Oui, elle est possible pour certains, pas pour d'autres. Donc on pense que Salomon s'est repenti à la fin. Quand on lit son livre, l'Ecclésiaste, on sent quelqu'un qui a pris note de tout son amour pour les choses de la terre et il a vu que c'était vanité. Donc il en a fait tout un livre pour montrer que les choses de la terre étaient vanité et que ce qui était mieux, c'est craindre Dieu. Donc on voit là l'odeur de la repentance. Maintenant, toujours est-il qu'une grande partie de sa vie, il l'a menée finalement en tant que faux serviteur. Voilà. Oui.
Oui, vous avez un peu répondu à ma question, mais donc par rapport à ce que vous disiez, Nancy, tout à l'heure, donc ces gens qui en arrivent à se servir eux-mêmes au final, il n'y a pas un moment donné où il n'y a pas un esprit de repentance. Enfin, toute leur vie, ils vont faire ça et toute leur vie, ça ne va pas les déranger.
Il y a des cas où il y en a qui vont s'arrêter, il y a d'autres qui vont continuer jusqu'au bout. Soit parce que, voilà, ils sont pris dans... Parce qu'il est écrit dans 2 Timothée, 2 Thessaloniciens 2, 9, que Dieu envoie, dans ce passage-là, 2 Thessaloniciens 2, il envoie la puissance d'égarement. Donc, à force de se comporter par la chair et de ne pas écouter l'appel de Dieu à la repentance, on finit par devenir insensible et on persévère dans la chair. Mais Élie est un cas. Je devais même citer son cas le dimanche. Quand on parlait de la lâcheté, Élie est un cas. Combien de personnes ont parlé à Élie? Donc un homme de Dieu est venu lui parler. Samuel lui a parlé. et par la, par lui-même était conscient que Dieu parlait à Samuel. Donc Samuel a parlé à Élie. Quelle a été la réaction d'Élie? Élie a dit, bon, que la volonté de Dieu soit faite. Mais attends, on te prophétise ta mort, la mort de tes enfants, la malédiction dans ta famille. Tout ce que tu trouves à dire, que la volonté de Dieu soit faite. Ça, c'est de la lâcheté, le refus de réagir. Donc, il n'a pas voulu réagir parce que sa réaction allait le pousser à prendre des décisions sur ses enfants et il n'en avait pas la force. Donc, il n'a pas voulu réagir. Ça, c'est une des pires lâchetés qu'on voit dans la Bible. On te prophétise tout ça, tu dis bon, que la volonté de Dieu soit faite. Pourtant, Dieu a prophétisé beaucoup de mauvaises choses à beaucoup de personnes, mais il a changé après. On voit l'histoire de Ninive. Donc Dieu a prophétisé la destruction de Ninive, mais quand Ninive s'est repentie, Dieu a changé. Donc Élie n'a rien cherché. Il dit que la volonté de Dieu soit faite. Voilà un cas de serviteur charnel. Oui. Donc ce sont des réalités qu'on retrouvera. On ne doit pas se dire ou infiltré ou rien, ou vrai. Non, il y a le milieu aussi.
Oui, je voulais poser la question pour savoir dans quelle catégorie j'ai entendu parler d'un serviteur de Dieu dans un pays africain. C'est quelqu'un qui, dans ce pays, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, et il a une grande église, entre guillemets, chrétienne, et il construit aussi des mosquées pour les musulmans.
Oui, ça, c'est un serviteur du diable.
Merci.
Là, il n'y a même pas à discuter, c'est un infiltré. Voilà. Donc, il veut embrouiller les pistes. Mais cependant, même les serviteurs charnels peuvent finir par avoir des doctrines contraires à la parole de Dieu. Donc, nous avons, quand on lit Colossiens au chapitre 2, Colossiens au chapitre 2, c'est pourquoi il ne faut pas. Certains vont commencer à dire bon, moi je suis juste charnel, je ne suis pas infiltré. Ah non, c'est dangereux. C'est dangereux de rester charnel et d'être tranquille, quoi. Il faut réagir. Donc même les charnels finissent par faire de grosses bêtises. Colossiens 2, il est écrit ceci au verset 18. Que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Alors on le dit clairement, on n'a pas dit que c'est le diable, ses visions à lui. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher à Jésus, au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Voilà. Ça ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc on voit qu'il y a des gens avec une apparence d'humilité, des gens charnels vont amener de nouvelles doctrines, de nouveaux cultes. Ah, il faut se laver les pieds avant de faire ceci. Mais ce n'est pas forcément des gens qui ont fait un contrat avec le diable. Ce n'est pas forcément des infiltrés, mais c'est des gens qui se sont abandonnés à leur propre vision. Donc, ils ont créé leur propre conception. Ils ont cédé plutôt. Ils ont cédé à leur propre conception de Dieu au lieu de regarder vraiment la vraie conception décrite dans la parole de Dieu. Ils ont cédé à leur propre conception. Nous ne sommes pas en train de parler de chute. Moïse, une fois, il a chuté. On lui a demandé de parler. Il a tapé avec le bâton. C'est une chute. Mais quand ça continue dans le temps, là, il y a un souci. Là, la chair commence vraiment à conduire la personne. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Il a fait une fois l'erreur. Il a pas écouter le Seigneur. Il a lui-même fait le sacrifice. Or, on avait dit, les règles sont claires, c'est le sacrificateur qui fait les sacrifices. Saül était roi, il n'était pas sacrificateur. On lui a dit d'attendre jusqu'au septième jour. Au septième jour, Il a vu que Samuel ne venait pas. Lui-même, il a fait le sacrifice. Or, Samuel était en train d'arriver. Maintenant, il s'est dit, je me suis fait violence. Mais non, tu t'es créé ta religion. Donc, lui-même, il a fait le sacrifice. Donc, ça, c'est un exemple de comportement charnel où tu crées maintenant, finalement, ta doctrine. C'est pour dire que ce n'est pas seulement les infiltrés, les serviteurs directs du diable qui créent des fausses doctrines. Même les hommes charnels, par leur comportement, ils peuvent commencer à créer de fausses doctrines. Ne touche pas ceci, ne touche pas cela. C'est des choses qui ne sont pas. Le Seigneur Jésus est venu nous présenter la vraie formule de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et quand nous faisons cela, nous nous éloignons du mal. Maintenant, vouloir faire l'inverse, vouloir faire sauver les gens par les œuvres, ça c'est la chair. Donc on veut que par l'apparence, c'est ça là qu'on se sente sauvé. Mais Paul dit, il dit ceci, il dit que ce sont des préceptes qui ont en vérité une apparence de sagesse. Parce que vivre que pour prier, pour faire les choses de Dieu, c'est bien. Mais Paul dit, le danger qui est là, c'est qu'il change la façon de salut. Ce n'est plus, on n'est plus sauvé par la foi, mais on est sauvé par les œuvres. C'est ça le danger que Paul dénonce. Il dit, ce sont des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus. Effectivement, nous voulons que le chrétien se préserve du danger de la télévision. Nous voulons que le chrétien se préserve du danger du monde. Mais il ne faut pas que ça en arrive à faire de lui un extraterrestre, quelqu'un qui n'est plus dans le monde. Il y en a qui vont dire, mais je n'utilise pas telle chose parce que telle usine. J'ai appris que le monsieur qui est le constructeur de l'usine, il finance telle chose satanique. Bon, je n'utilise plus telle chose parce que j'ai appris. Mais finalement, tu ne vas plus rien utiliser. Finalement, tu ne vas plus rien utiliser. Parce que même la Bible que tu utilises, tu ne sais pas comment c'est fabriqué. C'est fabriqué peut-être par une société qui ne cherche que l'argent. Voilà. Donc, ce n'est pas à dire que nous devons tout prendre et tout faire. Non, on n'est pas en train de dire ça. Comme notre frère Paul dit, c'est des préceptes quand ça, on en abuse. Si Dieu nous donne une révélation personnelle de ne pas toucher à telle chose, on ne touche pas. Mais on n'en fait pas comme une règle de salut. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Donc, quand on abuse de ça, on est en train de créer une nouvelle religion. Donc, faire attention. Quelqu'un voulait... Oui.
Tu réponds un peu à ma question que j'allais poser. Je me posais juste la question par rapport aux pasteurs qui, effectivement, interdisent des choses aux fidèles. Jusqu'à sortir même un livre, et c'est ce livre-là qui devient appui par rapport à la Bible. Donc là, c'est clairement des envoyés du diable, alors.
Non, ça, c'est le haut niveau, c'est-à-dire des gens qui sortent un deuxième livre en dehors de la Bible. Là, l'apôtre Paul appelle ça des doctrines de démons. Donc si quelqu'un... c'est l'antichrist. Donc si quelqu'un... C'est pourquoi on nous a dit d'éprouver tout esprit. Donc, si quelqu'un veut nous dire que la parole de Dieu est secondaire, sachons que c'est l'antichrist, parce que là, il touche à un élément principal, c'est la Bible. Donc, la Bible, c'est l'élément principal. Donc, si quelqu'un touche à ça, il y a un problème d'antichrisme dedans.
Et la deuxième question, toujours pour rejoindre cette question-là, donc, les fidèles qui suivent ça, donc, automatiquement, eux, soit ils sont dans l'ignorance, mais bon, ce sont des bons lecteurs de la Bible, on va dire, entre guillemets. Mais c'est quoi, eux aussi, en fait, soit ils sont assoiffés du serviteur, ou est-ce qu'eux aussi sont...
Non, il y a plusieurs cas. Il y a des gens qui sont charnels eux-mêmes, c'est pourquoi ils suivent d'autres qui sont charnels, qui ont des intérêts personnels aussi dans l'affaire, mais il y en a qui font ça par ignorance. Donc c'est pourquoi, comme nous ne savons pas tout avec exactitude, Dieu nous demande de prier pour tous. Voilà. Mais le but... de l'enseignement, c'est nous montrer que même dans les milieux chrétiens, il y a cela aussi. Les comportements, il y a des responsables qui sont charnels. Ce n'est pas forcément qu'ils ont fait un contrat direct avec le diable, mais ils se sont abandonnés à leur vision. Ils ont quitté la vision de Dieu. Donc c'est quelque chose d'important à comprendre. Par exemple, il y a des gens qui sont vraiment appelés par Dieu, mais en même temps, il est beaucoup plus français que chrétien. Donc en même temps, il est appelé par Dieu, il sert Dieu, mais en même temps, il défend la France plus que Dieu, au même niveau. Donc il y aura conflit, donc c'est quelqu'un de charnel. Nous, on avait un pasteur qui était pasteur. Bon, on trouvait quand même que quand il prêchait, ça allait. Mais en même temps, il était européen. Donc il avait un gros chien pour empêcher que les gens, parce que comme c'était au Maroc, donc il y avait le pasteur, il avait le presbytère près du temple. Donc là où il habitait, c'était près du, à côté de notre, du bâtiment, de la salle de culte. Et il y avait une salle attenante où on faisait des réunions de jeunes. Donc naturellement, quand on sortait de la salle, les gens avaient tendance à circuler un peu autour, un peu à côté de la maison du pasteur, juste parfois marcher, parce que ça, c'était dans la même enceinte. Alors il s'est pris un chien bien dressé méchamment pour empêcher les gens d'approcher. Donc il appelait sa vie privée. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui veut bien prêcher Jésus, qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais en même temps qui veut rester bien européen, bien suisse. Il était suisse. Donc il voulait bien rester suisse. Donc c'est la chair. Donc c'est des cas qui existent. Mais maintenant, il y a des chrétiens qui ont été choqués, qui sont retournés dans le monde à cause de tels comportements. Je dis, mais votre pasteur, comment il peut... Et il se dit pasteur et il se laisse perdre alors que Jésus a été bon à 100%. Donc il faut que face à de telles choses, on ne se dise pas, je retourne dans le monde. Mais c'est des réalités. Donc ils sont dans la parole de Dieu. Donc le monsieur tenait... Il appelait ça la vie privée. Et un jour, on a eu un débat à l'église. Lui, donc, il défendait le fait que l'homosexualité, c'était naturel. Donc, quand on entend son discours, on comprend que d'un côté, il veut bien prêcher Dieu, mais de l'autre côté, il veut bien rester européen avec toute la logique rationnelle, avec toute la logique à vouloir tout expliquer naturellement. Voilà. C'est des réalités. Ça rejoint ce qu'on vient de lire dans Colossiens 2. Ils s'abandonnent à leur vision. Leur vision, ça peut être la vision de la famille, la vision du pays, ce qu'il a étudié à l'école. Il ne veut pas changer de cela. Voilà. Il reste dans cette vision-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui ils ont un certain amour pour Dieu, mais gardent vraiment leur vision. Et finalement, ça produira des mauvaises choses. C'est des serviteurs qui parfois même peuvent accéder à des postes de responsabilité, mais qui restent charnels et susceptibles de faire de grandes destructions. Ce sont des réalités inscrites dans la parole de Dieu. Ça ne doit pas nous étonner. Donc on a parlé des gens qui volontairement commencent à se servir à travers l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui, comme on vient de citer là, qui s'abandonnent à leur vision. Ils ont quitté la vision de Dieu. Et ça finit par un mélange bizarre qu'on appelle charnel encore. Et puis, il y a le troisième cas des gens qui ont perdu la foi. Oui.
Je voudrais revenir sur le point de l'ignorance par rapport à la question de Sandra. C'est quand même dangereux de suivre une personne qui t'éloigne de la Bible par ignorance, jusqu'où l'ignorance peut aller, parce qu'on ne peut pas dire que... Enfin, moi, ça me choque quoi, quand on dit par ignorance.
Oui, par ignorance, parce que la personne n'a pas entendu d'autres la vérité. Donc, il faut qu'on lui présente la vérité. Quand on lui a présenté la vérité et qu'il refuse la vérité, là, on dira que ce n'est plus par ignorance, parce qu'il connaît la vérité.
Donc, personne n'ira en enfer par ignorance ou au paradis.
Ah non, le Seigneur parlera à tout le monde.
D'accord, donc à un moment, ils sortiront de leur état d'ignorance.
À un moment donné.
D'accord, oui. Ok.
Et nous lisons, oui.
juste pour reprendre un peu ce qu'elle disait, mais quand tu dis qu'à un moment donné, ils ont entendu parler de la Bible, justement, avant que ce pasteur-là puisse amener son enseignement par rapport
à... Ils ont entendu comment ? Parce qu'il faut savoir maintenant, chaque cas personnel, il y a des gens qui n'ont pas entendu vraiment la vraie vérité. Ils ont entendu des choses, mais déjà à l'époque, ils prenaient que les choses qui les arrangeaient. Maintenant, on ne peut pas savoir parce que c'est, comment dire, la voix de Dieu, c'est personnel. On ne peut pas savoir jusqu'à quel point quelqu'un a entendu clairement. Et c'est Dieu seul qui sait ça, qui peut fixer qu'un tel vraiment a entendu, sauf quand on parle de soi-même. Donc, comme moi, j'ai l'habitude de dire, le jour où on m'entend dire que la Bible, c'est relatif, donc sachez que j'ai péché contre le Saint-Esprit. Donc, parce que je sais que, comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Donc, si un jour je change, alors considérez-moi comme anathème. Donc, tu peux parler de toi-même, mais parler de l'autre avec précision, ce n'est jamais sûr. Voilà, parce que Dieu seul connaît le cœur. Voilà. Et... Oui.
Et un chrétien qui a évolué dans un milieu où il a vraiment entendu la vérité, la vraie vérité, et qui sort de cet endroit-là pour aller suivre autre chose. On va dire qu'il n'a pas compris.
Ah non,
ça c'est le plus
ignorant. Là, tu es sûr qu'il a entendu la vérité.
D'accord.
Voilà. Là, tu es sûr parce que tu étais au même endroit. Voilà. C'est. Okay. Et pour de telles personnes, on sait qu'il a entendu la vérité. Et Paul donc en parle de ce cas-là dans Hébreux 6. Bon, nous lisons d'abord quand même ça pour Hébreux 6. Hébreux 6. À partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Donc de telles personnes qui ont été éclairées, qui ont goûté à la puissance de Dieu et qui... épouse des doctrines anti-Dieu, c'est des personnes qui sont perdues à jamais. On en parle aussi dans Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Donc pécher volontairement, là, ça veut dire que tu commences à considérer le péché comme un état, pas un péché. Voilà, c'est ça. Donc volontairement, tu considères que ce n'est plus mauvais. C'est quand quelqu'un atteint ce stade-là, c'est fini pour lui. Oui.
Mais on a des cas de certaines personnes qui ont connu la vérité et qui sont parties, entre guillemets, je ne sais pas, dans l'islam ou dans d'autres religions et qui sont revenues. Je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il...
Mais peut-être qu'il a connu la vérité, mais il n'a pas participé à la vérité. Là, dans Hébreux 6... on dit qu'ils ont goûté au Saint-Esprit, participé aux puissances à venir. C'est-à-dire quelqu'un qui a prêché, qui a expliqué les choses et qui part dans l'islam. Moi, je connais plusieurs cas de personnes. Par exemple, là, on a un livre là, j'étais combattant dans là. C'était une fille qui avait des parents responsables dans une église protestante en Allemagne. Mais elle n'était pas engagée. Elle n'a pas prêché la vérité. Elle n'a pas... Voilà, sa conversion n'a pas été réelle. Donc, elle allait à l'église à cause des parents. Mais à un moment donné, elle n'a pas senti l'absolu. Elle n'a pas senti quelque chose de fort dans l'église. Elle a dit, bon, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On dirait qu'on vient juste parler. On dit Dieu, mais je ne sens pas ce Dieu-là. C'est là qu'elle est partie dans l'islam. Ce n'est pas quelqu'un qui a prêché, qui a expliqué les choses, qui était convaincu, qui a participé. Ce n'est pas la même chose.
Voilà. Et à partir du moment où la personne a... elle a la pensée de se repentir. On peut pas commencer à dire que parce que comment dire, une personne qui a été égarée, à qui on envoie la puissance d'égarement, ne peut pas comment dire se repentir parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché.
Donc, mais ça on l'a déjà dit.
Oui, mais maintenant, je demande. Fin...
On l'a déjà dit à plusieurs reprises, quelqu'un qui est dans cette condition-là ne cherchera même pas, puisque lui considère que ce qui est péché, c'est bon. Comment il va se repentir? Donc, péché volontairement, ça veut dire qu'il commence à considérer que ce que nous, on appelle péché, ah, vous exagérez. C'est pas mauvais. Ah, donc, quelqu'un comme ça, comment il va... Il peut pas se repentir parce qu'il ne considère pas ça comme un péché.
Et il y a certaines versions, il y a marqué aussi péché consciemment, dans le sens où on pourrait croire quand on lit que péché consciemment, c'est savoir qu'on pêche. Et on sait que c'est mauvais, hein, mais on sait qu'on pêche. Et on a l'impression que c'est ça, péché consciemment, en fait.
On vient de l'expliquer.
Oui, puisque, non.
Voilà, ok. D'accord. Donc, ok, puisque tu as compris. Ok, nous continuons. Donc, 1 Timothée 2, nous lisons. Chapitre 1er, à partir du verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà. Donc, Paul explique clairement qu'il y a des gens qui vont faire naufrage à Satan. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Et naufrage par rapport à la foi plutôt, ça ne s'arrête pas là. Ça peut amener à ce que nous avons expliqué tout à l'heure, à produire des fausses doctrines. Donc, Hyménée et Alexandre ont commencé à produire des fausses doctrines, entre autres que Christ était déjà ressuscité. Donc, la chair peut, par combinaison avec l'action du diable, produire des fausses doctrines. Ce n'est pas seulement des contrats diaboliques qui peuvent faire ça. Donc, quand quelqu'un n'a plus la foi, il va s'inventer un système pour remplacer les choses que la foi donne. Quelqu'un qui a la foi, il considère que c'est Dieu qui va tout lui donner. L'argent, les enfants, le travail, le mariage. Il considère tout. Maintenant, quelqu'un qui n'a plus la foi, il faut qu'il trouve qu'est-ce qui remplace tout ça là. Il va créer. Parce que quelqu'un qui a la foi, il obtient tout par la foi. Maintenant, quelqu'un qui n'a plus la foi va commencer à manipuler. Si c'est un pasteur, il va commencer à manipuler les gens, les obliger. Il y a des sœurs, puisque bon, on n'a pas encore commencé l'église en Guyane, mais on a quand même des gens qui s'intéressent à l'évangile, avec qui on est en contact. Et dernièrement, une de nos sœurs a voulu amener une de ces personnes dans une autre église en se disant, bon, comme nous, on n'a pas encore commencé ici, c'est mieux, surtout qu'on n'a qu'une réunion le dimanche là-bas à 16h, c'est mieux que, comme cette personne-là travaille à cette heure-là le dimanche, je lui trouve une autre église. Mais ils sont partis dans cette église-là. Le pasteur, au lieu d'insister sur l'attachement à Jésus, il insistait sur le fait de venir le dimanche à l'église. Donc, la sœur même qu'on a voulu amener là-bas, elle-même, elle a dit, je ne me sens pas bien ici. Alors, vous voyez donc, la personne, au lieu d'être confiante en Dieu, que c'est Dieu qui amène les gens, c'est Dieu qui touche les cœurs, lui, il insiste. Mais quand quelqu'un a déjà entendu la vérité, il ne va pas se sentir à l'aise dans cette configuration-là où on insiste pour venir dans un lieu. On doit insister pour que les gens soient en communion avec le Seigneur et c'est le Seigneur qui va les amener dans un lieu ou quelconque. Mais quand on commence à insister pour un lieu, quelqu'un qui connaît la vérité va dire non, ça c'est pas la vérité, ça va bouger. Mais tout ça c'est la chair. La chair va nous faire créer des doctrines. Oui.
Je voulais savoir les fondateurs des sectes. C'est des personnes qui ont commencé charnellement et qui ont fini par...
Ah non, non. En tout cas, pour que fonder les sectes, vraiment, c'est, en général, c'est le diable.
D'accord, parce que...
Parce que pour soutenir une doctrine, une idéologie, parce que quand on est charnel, c'est de notre vivant, puisque c'est nous qui organisons les choses, on a une certaine force. Mais quand on meurt, qui continue à soutenir ça? Si on est mort, c'est fini. En général, ça ne va pas durer quelques années. Mais si ça continue, sachant que le début, c'était les démons qui avaient inspiré ça et qui continuent leur travail malgré ta mort. comme nous aussi, si tu es vraiment de Dieu, même quand tu meurs, Dieu continue son travail à travers ce que tu avais prêché, ce que tu avais dit. Il continue, mais parce que ça ne vient pas de toi. Mais quand quelqu'un meurt et que le mouvement continue dans l'erreur, en général, c'était les démons qui avaient inspiré. Donc, oui.
Les mouvements comme Kimbanguiste, je pense que tu connais ces mouvements-là.
Oui, oui.
L'auteur n'est plus, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et
c'est les démons. Un mouvement où on dit que le Saint-Esprit, c'est un homme, c'est les démons. Voilà. Oui.
Le serviteur, parce qu'il fut un temps dans un pays d'Afrique où il y a un groupe de serviteurs qui avait aussi instauré des choses. Par les mouchoirs, ils guérissaient les gens, à distance, pendant qu'ils prêchaient à la télé. Il suffisait de toucher la télé, tu étais guéri à distance. Les choses comme ça, et par rapport à ces serviteurs-là, qu'est-ce que tu dis
Non, par rapport à ce qu'on sait d'eux aujourd'hui, c'est des démons. Qui les ont inspirés et fortifiés. Voilà, parce que la Bible répond à tout. Parce que vous savez, Gamaliel, quand il y avait les gens qui ont voulu brutaliser les chrétiens, Gamaliel avait dit quoi? Gamaliel a dit, si c'est un mouvement qui vient de l'homme, ça passera. Mais est-ce que l'islam est passé? Est-ce que le catholicisme est passé? Est-ce que le kimbanguisme est passé? Non. Si c'était charnel... Dès que le monsieur meurt, ça s'arrête. C'est ce que Gamaliel avait dit par rapport au mouvement des chrétiens. Il a dit, si c'est un mouvement d'un homme, ça passera. Mais si c'est Dieu, ça continuera. Alors, donc comprenez qu'un mouvement qui continue longtemps après la mort de la personne, soit ça vient de Dieu, si c'est, on sait reconnaître ce qui est de Dieu, ça va être biblique, soit c'est le diable qui... à travers les démons, a inspiré le mouvement, de sorte que tu meurs, mais ces esprits-là sont encore là pour continuer le travail, malgré ta mort. Donc ce sont des réalités, bien-aimées, il y a des serviteurs de Dieu charnels. Je donne le témoignage, en même temps, au début négatif, mais positif, de Maurice Ray. Maurice Ray, au début, il était un pasteur charnel. Non pas, parce qu'on a cité aussi ce cas-là, par manque de maturité. Donc il y a des gens qui sont charnels par manque de maturité. Ils ne connaissent pas encore la Bible. Mais, vous savez, dans mon pays d'origine, si tu es quelqu'un qui prie longtemps et qui connaît le français, donc on t'appelle pasteur. Donc donc il y a des gens qui, quand on dit, qui va lire? Il prend la Bible, il lit. Oh, mais le frère là, il est inspiré. Mais non, mais il n'est pas. Donc, parce que juste il a parlé bien français en lisant. Donc, et quand tu pries longtemps, oh, mais ce frère là peut tenir 5 heures du temps. Hein, attention, à genoux. Mais après, le monsieur, il a beau mentir, voler. On n'en tient pas compte. L'essentiel qu'il fait à genoux 5 heures du temps. Donc, ce qui fait qu'il y a un tas de pasteurs qui se sont levés comme ça, parce qu'ils se mettent à genoux 5 heures du temps, mais ils ne connaissent pas vraiment la Bible. Manque de maturité, et ce n'est pas vraiment que ce monsieur-là est mal intentionné, mais c'est l'ignorance, manque de maturité, et ça existe. Et Maurice Ray, ça faisait 3 ans qu'il était pasteur. 3 ans. Il avait son diplôme de théologie. 3 ans, il était pasteur, mais il ne voyait rien. Il sentait que l'Église n'avançait en rien. À un moment, il était dépité, il a appelé un pasteur aîné. Ils ont discuté. Le pasteur aîné lui a dit, je comprends ton problème, c'est que tu n'es pas converti. Donc ça, c'est un problème. Donc quelqu'un qui est sympathisé avec les choses de Dieu, sans vraiment entrer en profondeur, sans vraiment être converti. Ça peut arriver aussi. Mais qui quand même saute des étapes parce que nous sommes dans des organisations humaines et dans les organisations humaines, il y a aussi des failles, il y a aussi la toute-puissance de Dieu, on ne connaît pas la souveraineté de Dieu, comment ça fonctionne, mais toujours est-il que ces gens-là peuvent grimper aussi des échelons. C'est une réalité. Donc il ne faut pas que ça nous étonne, mais comment Dieu a laissé, mais c'est une réalité, comprenons que c'est une réalité, à nous de nous attacher à la Bible et au Saint-Esprit au lieu de s'attacher aux humains et aux organisations. C'est cela. Et quand on lui a dit, mais le vrai problème, c'est que tu es pas converti, il a accepté de se convertir. Il a dit, je reconnais. Parce qu'il a dit, mais comment ça, je ne suis pas converti? Je suis pasteur, j'ai mon diplôme de théologie. On lui a expliqué les choses. C'est quoi la conversion? La conversion, on le reconnaît aux fruits. On le reconnaît à l'amour pour Dieu. On le reconnaît, voilà. Quand on lui a expliqué tout ça, il a dit, mais c'est vrai, je ne sens pas tout ce que tu dis là chez moi. Maintenant, je veux me convertir. Et le pasteur a prié ensemble avec lui. Il s'est converti et sa vie a changé, a été transformée. Dieu l'a utilisé puissamment maintenant dans son œuvre. Donc, c'est ça il y a aussi un autre cas de serviteurs qui sont charnels à cause d'un problème de connaissance, un problème de maturité. Ils ont entendu, il y a des gens, depuis qu'il est dans le milieu chrétien, il entend un certain genre de discours. Même si au fond de lui, il aime Dieu, mais il a quand même pris des habitudes. Et ces habitudes-là qui sont charnelles. Donc, il faut un temps où Dieu va le nettoyer, le redresser. Donc, ce n'est pas forcément qu'il est mal intentionné. Donc, ça aussi, ça existe. Et c'est pourquoi il est écrit quoi ? On ne donne pas de responsabilité à un nouveau converti. À cause de ça, parce que pour servir Dieu, pour avoir des responsabilités, ça demande aussi la maturité, ça demande une certaine connaissance donnée bien sûr par Dieu à travers un certain nombre de temps. Le temps a son importance aussi. Donc on ne peut pas dire que voilà, je suis rempli du Saint-Esprit, je deviens pasteur. Non. Donc c'est le temps, la formation de Dieu est nécessaire pour tout cela. C'est très important. Voilà. Donc ça, nous clôturons ce qui concerne. Oui.
Oui, pasteur. Un serviteur qui commence, comme on dit, commence par l'esprit. Au début, il fait des choses bien. Il s'appuie à la Bible et tout ça. Mais par envie, il veut imiter les autres qui fait des miracles. Et il finit par aller plus loin, toucher au fétiche. Il est dans quel cas?
Il est dans le cas de Saül. Donc c'est la chair qui l'a amené jusqu'à s'éloigner de Dieu à ce niveau-là, quoi, jusqu'à faire des contrats avec le diable. C'est le cas de Saül. Saül est parti consulter justement une voyante.
Étant serviteur de Dieu, entre guillemets, bon, il a prêché la vérité, après il a changé. Il y a la possibilité de revenir en arrière ou pas?
Ah non, 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 non. Là, c'est fini. Ça, c'est Hébreux 6. On a déjà lu ça. C'est fini. Je sais de qui tu parles, mais il connaissait la vérité. Hein. Donc, voilà. Cet homme-là connaissait la vérité. C'est pas... Mais il s'est fait prendre par les amitiés, l'amitié avec les grands pasteurs, tout ça. Mais voilà. Et, oh, la plupart de ces grands pasteurs-là sont des escrocs, des serviteurs du diable. C'est cela. Le sentiment, ça peut tuer. Il faut servir Dieu dans la vérité et non pas par affinité humaine. Donc c'est dans la vérité. Il n'y a pas question, c'est mon cousin, c'est mon oncle. Non, c'est la vérité qui compte. Oui.
Par rapport à ce qu'on partage, si je comprends bien, personne n'est à l'abri, chacun doit être vigilant, que même celui qui est dans la vérité doit demeurer vigilant.
Oui, 1 Corinthiens 10, 12, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Amen. Voilà. D'accord. Donc il faut rester ferme dans le conseil de notre frère Paul. Acte 20, il dit « Je vous abandonne à la parole et au Saint-Esprit ». Donc il faut s'accrocher à ces deux éléments-là. La Bible et le Saint-Esprit. On ne rejette pas les autres choses. On ne rejette pas les églises, on ne rejette pas les pasteurs, on ne rejette pas tout ça, mais tout ça doit aller ensemble avec la Bible et le Saint-Esprit. Si ça ne va pas ensemble, on ne peut pas adhérer pour adhérer. On doit suivre quelqu'un qui va ensemble avec la Bible. Si quelqu'un n'applique plus la Bible, mais il est éloquent, il fait des miracles, on ne suit pas. On ne suit pas. Il faut appliquer la Bible, il faut suivre la Bible. Il faut avoir montré le fruit lié à la parole de Dieu. S'il n'y a plus ce fruit-là, comme on voit des gens quand on voit un pasteur qui présente aux journalistes ses voitures amères, 4x4 Mercedes, 4, bon, tu vois quelqu'un comme ça, même si sa prédication est belle, tu vois bien que son fruit est le fruit de Michael Jackson. Tu ne peux pas suivre quelqu'un comme ça. Donc, tu t'en prendras qu'à toi-même le jour où ça tournera mal. Voilà. Le Seigneur dit dans Matthieu 7, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, les faux prophètes, à partir du verset 15. Oui.
Là, tu expliques par rapport aux gens justement où on voit toutes ces situations par rapport au pasteur. Mais tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, oui, mais il y a des personnes, comment ils peuvent suivre? Tu as dit que c'est parce qu'ils n'ont jamais été enseignés. Mais à quel moment, une personne peut se rendre compte ou bien Dieu peut se révéler à lui pour dire telle situation, tel pasteur est mauvais?
Oui, mais Dieu seul détient ce moment-là.
Mais il y a des gens, ils peuvent mourir comme ça aussi, quoi.
Non, comment ça? Dieu veut sauver tous les hommes.
Mais oui, mais tout à l'heure, tu as dit qu'aussi, on ne pouvait pas... par exemple, quand un pasteur allait faire les fétiches ou allait faire des choses qui ne glorifiaient plus le Seigneur, il ne pouvait plus revenir, c'était trop tard.
Ah, pour ces gens-là, c'est fini. Je parle des pasteurs qui connaissent la vérité. Je ne parle pas des gens qui se sont levés tout seuls, ils ont fait des erreurs, après un jour, ils vont être sauvés. Je parle des gens qui... Hébreux 6, ils ont été éclairés, ils ont été goûtés à la puissance du Saint-Esprit, et puis un jour, ils vous disent, ah, mais non, tout ça, c'était psychologique. Ah, ben là, c'est fini. C'est fini. Ils ne peuvent plus être sauvés. Voilà un autre élément du paysage chrétien. Donc, on va s'arrêter là. Mardi passé, c'était les serviteurs, mais directement du diable ou indirectement par l'action des démons. On a cité le cas de Judas et bien d'autres. Et puis, il y a aussi des serviteurs charnels, soit par manque de maturité, soit par la foi qui a décliné. Troisièmement, les visions charnelles. Quatrièmement, l'amour des choses de la terre. Démas m'a abandonné pour l'amour des biens de ce siècle. Donc, ce sont des réalités qui peuvent faire de quelqu'un qui est vraiment appelé devenir un serviteur charnel. Maintenant, nous ne sommes pas en train de parler des chutes. Donc, quelqu'un comme David et Moïse, ce n'est pas parce qu'ils ont chuté que ce sont des serviteurs charnels. Mais quelqu'un comme Salomon, Saül, et Salomon l'a été en tout cas un moment pendant longtemps, et quelqu'un comme Saül, Élie le sacrificateur, ont été des serviteurs charnels. Les Démas, on a cité les Démas, les Hyménées, c'était des responsables, mais ils ont... pendant un certain temps, épouser la cause de la chair. Ce sont des réalités qu'on va retrouver jusqu'au retour du Seigneur. À nous de nous attacher à ce qui est écrit, à la parole de Dieu, et ne pas nous laisser embobiner dans des gens qui suivent leur vision au lieu de suivre la parole de Dieu. Donc c'est très important qu'on considère la parole de Dieu comme l'autorité suprême. Ce n'est ni une église, ni un pasteur, ni un prêtre, ni qui que ce soit. C'est la parole de Dieu, la Bible qui est l'autorité suprême, dirigée bien sûr tous par le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous devons fonctionner. Et nous serons préservés de tous les maux que le diable envoie. Voilà la réalité. Et prions que Dieu nous garde dans la vérité ainsi. Le mardi prochain, nous allons parler des chrétiens charnels. Là, nous avons parlé des responsables charnels. Le mardi prochain, nous commençons par la série chrétiens charnels. Mais on ne pouvait pas mélanger ça avec aujourd'hui parce que nous allons donner des détails des comportements des chrétiens charnels. Parce que sans détails, ça paraît vague. Voilà. Donc, rendez-vous mardi prochain. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons prier que tu nous aides à nous attacher à ta parole, la Bible, Seigneur, à nous attacher au Saint-Esprit, à garder la foi, à ne pas nous laisser tromper par nos propres visions, nos propres idées, que ce ne soit pas nos idées qui nous conduisent, mais que tout ce que nous prenons comme décision soit issu de la lecture de ta parole. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Sois notre guide à jamais par ta parole, car ta parole est permanente et vivante. Ta parole donne la vie. Ta parole lave, nettoie, comme il est écrit dans 2 Timothée 3:16. Elle est utile, Seigneur de gloire, elle est utile pour convaincre, corriger, instruire dans la justice, enseigner, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre, qu'elle soit en action ainsi au milieu de nous, et que ton esprit, Seigneur, nous guide dans toute la vérité et nous préserve de tout écart. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.